Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Campus pour une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge, présentée par Lise et Claire au micro et Antoine aux manettes. Dernier, Daniel Ben Saïd nous a quittés. Et aujourd'hui, à Panthère Rouge, on a voulu commencer l'émission en rendant hommage à ce grand homme. Et pour expliquer qui était ce grand homme, j'ai trouvé sur Internet un petit texte que Alain Crévin a écrit le lendemain de sa mort et qui donne un portrait du personnage. Daniel est mort hier et nous sommes des milliers et des milliers d'amis et de camarades qui, en France comme à l'étranger, sont sous le choc. Ancien militant des JC à Toulouse, Daniel participa à la création des JCR, puis de la LCR, puis du NPA. Un des animateurs du mouvement du 22 mars à Nanterre en 1968, Daniel est devenu un philosophe marxiste, actualisant sans dogmatisme la pensée révolutionnaire. Internationaliste, dirigeant de la 4e internationale, il fut actif pour aider aussi bien les révolutionnaires dans l'Espagne franquiste que ceux d'Amérique latine. Aussi efficace à diriger le service d'ordre de la LCR qu'à écrire sur le capital de Marx, il avait décidé d'accompagner le lancement du NPA en lançant la revue Contre-temps et en constituant la société Louise Michel, un cadre de débat et de réflexion de la pensée radicale. Daniel, c'était tout cela à la fois, attachant, convivial et toujours à l'écoute des autres. Il aimait la vie, il aimait le débat politique, il aimait la révolution. Alors que nombre d'ex-68ards ont tourné cassac pour ne plus qu'être que d'anciens combattants, Daniel Ben Saïd n'aura rien lâché, rien abandonné. Alors on continue. Et pour suivre ça, on va écouter un extrait de Daniel Ben Saïd, justement, qu'on a pris sur France Inter.
La théorie de Marx, comme quoi, finalement, ce qui fait la valeur... C'est le temps de travail nécessaire à sa production. C'est... Non, regardez comment on chronomètre les gestes, comment à Peugeot Sochaux, comment ils demandent le tableau de menstruation des femmes pour organiser les horaires, pour qu'il y ait le moins de temps de pause possible, etc. Ou supprimer les chaises pour que les gens ne puissent pas s'asseoir entre deux gestes de travail. Non, c'est la chasse au temps mort au sens aussi sauvage qu'au XIXe siècle à certains égards. Quelques critères de progrès chez Marx, je crois qu'ils sont assez bons, qu'on devrait réfléchir. C'est premièrement, réduire au maximum le temps de travail contraint. Le premier critère de progrès, c'est qu'on est à travailler de moins en moins pour reproduire ce dont la société a besoin. Les gains de productivité le permettent. Le paradoxe, c'est qu'au lieu de faire du temps libre, on fait de la misère. Le deuxième critère qu'on trouve chez Marx, c'est l'idée qu'un des critères de progrès, c'est le type de rapport entre les gens, entre les hommes et les femmes. Pour une raison qui était fondamentale, c'est que le rapport entre les sexes, c'est la première expérience qu'on fait de la différence. Et que dans toute société où les femmes seraient opprimées, dominées, eh bien l'étranger, l'immigré, le différent, sera lui aussi en insécurité et en menace de domination et d'oppression. Le capitalisme est par définition amoral ou immoral. Vous aurez le choix entre les deux termes. Ce système-là conduit l'humanité à sa perte. Alors, on s'attendrait que, puisque les banques sont un bien public, on dit, ben alors, autant qu'elles soient dans le domaine public, gérées publiquement, sous contrôle du public, etc., au moins, on pourra agir dessus pour contrôler où vont les investissements, où passe la recherche, renflouer l'automobile, mais à quelles conditions, pour produire quelles automobiles, associer à quel plan de réorganisation des transports pour ne pas repartir dans un cycle tout automobile, de croissance urbaine, de rallongement des temps de transport, etc., on pourrait avoir un droit de regard par rapport à ça. Tandis que là, c'est l'État assurance tout risque de l'industrie automobile, comme des banques, comme du bâtiment Bouygues, etc., sans droit de regard, sans contrepartie, ce qui fait que pour nous, ça remet à l'ordre du jour le thème qui était presque devenu une indécence depuis quelques années dans la vague de privatisation, qui est de dire, non, c'est le service public, la propriété publique, le domaine public, le bien commun. Et non pas comme avant, sous le seul contrôle de l'État, mais sous contrôle des travailleurs et des usagers.
Une chose qu'on a mis de côté, finalement, c'est l'essentiel dans ton... Peut-être pas dans...
Alors, c'était Daniel Ben Saïd. C'était un morceau qu'on a piqué à une émission de Daniel Mermet, comme vous avez pu entendre la voix à la fin de l'extrait. Et pour poursuivre l'émission, alors Lise va nous parler de la situation en Iran. Et puis, je vous ferai le portrait d'Alexandra Kollontai. Et pour finir, Lise nous parlera du MAP. Alors, le MAP, qu'est-ce que c'est ? Ben, vous le saurez si vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Et peut-être qu'on va enchaîner avec une petite pause musicale. Bonne année.
Bonjour Claire.
Bonne année les auditeurs. Alors, as-tu pris comme résolution d'être un sage mouton asservi ?
Eh ben non, et apparemment le peuple iranien non plus. Il ne veut plus jouer ce rôle.
Donc Lise, tu nous parles aujourd'hui de la situation en Iran.
Oui, puisque en fait, Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais depuis le 12 juin 2009, la date des élections truquées, la contestation n'a jamais cessé. Les dates de commémoration officielles sont détournées par la population pour en faire des manifestations subversives. Et ces manifestations rallient toujours plus de monde. Alors la dernière journée notable, enfin celle que l'on connaît, puisque les informations mettent un certain temps à nous parvenir, c'est le 27 décembre. C'est le jour de l'Ashura, le jour de deuil dans la un jour de deuil dans la tradition chiite qui commémore la mort de Hussein, le petit-fils de Mahomet. Bref, ce 27 décembre 2009 a vu des manifestations d'une détermination très impressionnante. Alors la ville, la capitale Téhéran, était recouverte de fumée entre les gaz lacrymaux et les feux. Pour la première fois depuis 30 ans, on a vu des femmes sans voile descendre dans la rue. Il y a eu des affrontements au corps à corps avec les policiers et les Basiji, les milices islamiques. Des voitures et des postes de Basiji, en fait l'équivalent de nos postes de police, ont été brûlés et des barricades ont été formées. Alors il y a pas mal de difficultés à comprendre ce qui se passe. Et je me demande comment fonctionne Google, comment ça se fait qu'on a tant de mal à avoir des informations. L'outil principal, ce sont les vidéos. Les vidéos que les manifestants prennent avec leur téléphone portable et mettent sur Internet. Alors un peu comme Haïti, comment ne pas être ému en voyant ces vidéos avec le meurtre de Neda qui revient sans cesse, jeune femme très belle, morte dans une manif, en moins d'une minute, ayant reçu une balle en pleine poitrine. Donc j'en ai déjà parlé et j'en reparle, mais c'est une obsession pour nombre d'Iraniens. C'est une véritable icône de la lutte. Elle est morte les yeux ouverts, on ne doit pas vivre les yeux fermés. Voilà le genre de slogan qu'on retrouve. Et heureusement, je salue leur travail, il y a des Iraniens en Europe qui écrivent sur ce conflit. En particulier, il y a les articles de Yasmine Mazer et Babak Kia sur les sites respectivement de Hand Off the People of Iran et Contretemps, auxquels je vais me référer et qui confirment la violence que suggèrent les vidéos. Alors après, il manque encore des infos. Parce que, en fait, un peu comme pour Haïti, j'aimerais qu'on me propose des numéros pour faire des dons, pour aider ces manifestants, ou la possibilité de m'engager, un peu comme pendant la révolution d'Espagne où nombreux étrangers venaient par solidarité lutter pour une révolution socialiste.
Oui, c'est sûr que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au-delà de tes aspirations à la révolution internationale socialiste, revenons à la situation en Iran. Pourquoi la théocratie islamique, si autoritaire et si efficace pour faire taire les opposants, n'y arrive plus aujourd'hui? Pourquoi en 7 mois, la contestation ne s'est pas essoufflée?
Parce que le régime s'est affaibli en interne, mais tu mets le doigt sur un point important dans la question. En fait, la question, c'est le pouvoir de la religion. Alors soyons précis. La constitution de l'Iran, de la République islamique, est basée sur le Velaya Efagi, le gouvernement du jurisconsulte, l'incarnation du pouvoir divin et la domination du religieux sur le politique. Donc, le premier personnage de l'État, c'est le guide suprême, qui est au-dessus de tout. Donc, il dirige les organes clés du pouvoir, les forces armées, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution et les milices islamiques, que l'on appelle en Iran donc Sepa et Pasdaran, et puis Basiji. Alors, le guide dirige également les médias d'État, l'appareil judiciaire, et surveille le pouvoir exécutif. En règle générale, le guide trace les lignes directrices de la politique du régime et a pour vocation d'arbitrer les différentes fractions politiques.
Et ce n'était plus le cas ?
Eh bien non. Puisque Khamenei a pris part, donc Khamenei, le guide suprême, a pris part au coup d'État électoral contre le camp des réformateurs. Il a soutenu donc Ahmadinejad bien avant le scrutin et a qualifié sa réélection de miracle divin. Et ensuite, il a ordonné la répression contre les manifestants et les opposants. En faisant ça, Khamenei s'est donc exposé au rejet populaire et en fait a dépassé son rôle d'arbitre.
Mais ça ne justifie pas la crise actuelle, il doit y avoir autre chose.
Eh bien, en fait, il faut comprendre qu'il y a une réelle division entre les ayatollahs traditionnels et les gardiens de la révolution et la milice islamique. En gros, pour être clair, il y a les religieux qui se divisent en deux camps, les traditionalistes, quoi, ceux qui sont spirituels, et puis les hommes armés, quoi, les gardiens de la révolution et la milice islamique. Et en fait, les hommes armés ont pris le pouvoir économique et financier. Ils se sont appropriés la distribution des marchandises, les ports commerciaux, des aéroports, des compagnies aériennes, des compagnies de télécommunications, diverses entreprises, que ce soit dans la métallurgie, la construction automobile et le bâtiment. Donc le régime était fondé sur un équilibre entre ces deux branches, le spirituel et les hommes armés, en gros. Mais cela ne suffisait plus au guide suprême. donc le guide suprême qui est en fait le grand chef des hommes armés. Je résume un peu, mais c'est ça. Hein. Alors, il souhaitait gouverner seul. Cela nécessitait l'éviction des clans adverses et l'instauration d'une dictature militaro-fondamentaliste. Et la victoire d'Ahmadinejad devait être la concrétisation de ce projet. En fait, Ahmadinejad est issu des gardiens de la Révolution. C'est pour ça, en fait. Enfin, voilà, bref. Donc, mais en tentant de mettre la moitié du régime hors jeu, les Pasdaran ont rompu avec les équilibres traditionnels au sein de la République islamique. Et en fait, ce qui a surgi et ce que personne n'avait prévu, c'était l'éruption de la mobilisation populaire.
Quel rôle joue donc ce troisième acteur qu'est la rue ?
Alors, à l'évidence, le camp des réformateurs, les ayatollahs, c'est en fait leur but est de récupérer le mouvement populaire en leur faveur. Le problème, c'est que la population avait des séquelles du régime bien avant les élections de juin dernier. Elle a subi 30 ans d'absence d'espace démocratique, de perspectives sociales, de répression au quotidien, d'ingérence dans la vie privée de chacun, de corruption des dignitaires du régime. Bref, cela explique que les mobilisations sont passées de la contestation des élections truquées à poser la question de l'illégitimité du système du Velaya et Faghi, fondement même de la République islamique d'Iran. Et donc pour la première fois dans 30 ans d'histoire, les manifestants expriment politiquement et publiquement leur souhait d'un État laïque, démocratique et rejettent les ingérences impérialistes.
En pratique, comment ça s'organise ? Comment la rue est organisée ? Comment le mouvement est mené ?
Alors de manière très spontanée en fait, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Donc les manifestations s'organisent grâce aux connexions individuelles, familiales, les voisins, au niveau professionnel. Internet et le réseau de téléphonie mobile, que le pouvoir ne peut paralyser totalement même s'il y sait, jouent un rôle important et permettent aux opposants de communiquer, de s'organiser et surtout de s'informer sur la situation dans le reste du pays. Et puis ils suivent également les réactions à l'étranger et communiquent avec la diaspora, d'où mes super articles. Et puis pour ce qui est de la décision des manifestations, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils récupèrent les journées nationales de commémoration, ils les détournent, et puis également ils fêtent les deuils des manifestants tués, il y en a beaucoup, et également des ayatollahs qui sont morts et qui soutenaient le mouvement populaire. En fait, tous les 40 jours, en mémoire de leur mort, il y a une nouvelle manifestation, quoi.
Ouais. Bon, on comprend bien la position des réformistes qui contestent la prise de pouvoir des militaires et qui sont aussi religieux, mais surtout militaires. Mais en ce qui concerne le peuple, quels sont les éléments politiques qui contribuent à ce réveil musclé de la population ?
Alors, en fait, voilà, l'État iranien se base idéologiquement sur la religion et le nationalisme. Or, dans ces deux domaines, il s'avère que ce ne sont que de beaux discours pour assouvir le peuple que l'État, lui, ne respecte pas du tout les beaux discours. Voilà. Bref.
Pour l'aspect religion, on commence à voir, mais pour l'aspect nationaliste, c'est moins évident. L'État n'est pas nationaliste ?
Dans un sens, oui, puisqu'il diffuse des idées racistes anti-Occident. Mais en ce qui concerne l'économie et la géopolitique, non. Alors, par exemple, le régime collabore avec les États-Unis et les forces occidentales en Afghanistan et en Irak. Sur le plan économique et commercial, on ne compte plus le nombre d'accords signés avec les grandes multinationales. Et donc, en fait, via Dubaï, les grandes puissances occidentales commercent avec l'Iran. Et pour ce qui concerne le domaine sécuritaire, des multinationales comme Nokia et Siemens aident le pouvoir à limiter les capacités de communication des manifestants et à contrôler le trafic Internet. En fait, là, j'ai un peu les réponses à mes questions sur Google, mais bon. Alors, dernièrement, Interpol a publié l'identité de 12 militants d'extrême gauche recherchés par la République islamique. Et puis, la dernière semaine de décembre, la Chine a livré à l'Iran des blindés anti-émeutes, et cela au vu et su des puissances impérialistes. En fait, c'est facile à comprendre, les puissances impérialistes préfèrent la stabilité au changement apporté par une mobilisation populaire qu'elles ne contrôlent pas. Et donc voilà, au final, le peuple iranien n'adhère plus du tout au discours officiel.
Et le peuple iranien devient révolutionnaire alors ?
Eh ben oui, il y a de ça certainement. Mais bon, le régime iranien, très répressif, a depuis longtemps interdit l'organisation de groupes, associations, partis de militants contestataires. Donc c'est assez dur de comptabiliser ceux qui adhèrent à ces slogans. On n'a pas de syndicat officiel qui va compter le nombre de manifestants comme chez nous en France. Ouais, bref. Et puis, on trouve de tout. En particulier, il y a aussi des Iraniens qui reprennent des slogans dénonçant Ahmadinejad et Khamenei simplement au nom de l'islam. Voilà. Alors, d'un autre côté, l'absence d'organisation et de structuration empêche le régime de décimer un mouvement qui n'a pas de chef. J'insiste bien là sur l'aspect auto-organisation. C'est un mouvement qui s'auto-organise très vite, et ce qui le rend incontrôlable pour Khamenei. Et mais bon, en même temps, qui le rend fragile, quoi. En fait, fragile parce qu'il ne s'appuie sur rien idéologiquement, matériellement ou en tant qu'expérience de militant. Il ne s'appuie sur rien, sinon la colère du peuple.
Et tu évoquais le fait que le gouvernement s'était armé avec des chars anti-émeute chinois. Est-ce qu'on a des informations sur ces répressions? Enfin, ils les utilisent dans la répression?
Bah oui, enfin oui, en fait la répression est dure quoi. Les gens continuent à manifester, mais dans des conditions très très dures. Donc pour donner l'exemple de la dernière journée là, le 27 décembre, donc c'était une journée de commémoration officielle, hein, je le rappelle, la Shura, pendant laquelle la logique voudrait qu'on évite de faire de nouveaux martyrs. Eh bien, plus de 1000 personnes ont été arrêtées et le bilan des personnes tuées s'élève au moins à 36. Même le Shah n'avait osé réprimer les manifestants le jour de la Shura. Et les jours suivants, le 27 décembre, le pouvoir a multiplié les arrestations et ses sbires ont attaqué les mosquées pour déloger les religieux favorables à Mousavi.
Et toi, comment tu penses que ça va évoluer ?
Eh ben moi, je pense que ce mouvement peut être révolutionnaire. Il peut renverser le pouvoir, il peut mettre en place un régime égalitaire homme-femme, laïque, démocratique. Et là, je reprends leur revendication, hein. C'est pas moi qui invente. Voilà, donc il y a cette possibilité, et le fait qu'il y ait cette possibilité rend le moment crucial. Mais en même temps, je sais qu'il y a peu de chance à cause des fous qui sont au pouvoir en Iran, et puis à cause de la situation au niveau international, en particulier des fous qui sont au pouvoir... au niveau international, et notamment un gouvernement américain qui a tendance à faire la guerre partout où il peut, quoi. Et puis la question, justement, sur ça, là, la question de la géopolitique, ça renvoie d'ailleurs à l'indifférence internationale des autres peuples. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait froid dans le dos. On a tous été émus par la situation des Haïtiens, et de même, on ne peut être qu'émus par la situation des Iraniens, mais encore faut-il être au courant, et c'est tellement un sujet caché...
Et justement, tu peux nous rappeler tes références sur...
Voilà, donc moi je vous invite à vous renseigner sur ce qui se passe en Iran. Donc les articles que j'ai lus, sur lesquels je me suis basée, sont les articles du site Contre-temps de Babakia et du site End of Iranian People, un site anglais. Et c'était un article de Yasmine Mazer.
Et donc on rappelle que Contre-temps, c'était une revue dont...
qui avait été montée par Daniel Ben Saïd.
Daniel Ben Saïd. Voilà.
Marcus Savage was black and tough, not yet 15, motherless since birth. He lived with a father who spent most of his time drinking up what little money his junk gathering brought in. The ruggedness of a tough life added years to his body, but his intellect barely matched that of any of the younger boys he now walked with. Yet he was smart in a way that desperate must be to survive. Big in their world, a small world that respected his strength and demanded little of his brain. They were nearing the orchard now, moving steadily, watching for any sign of life around the corner house of barn. Figure creeping alongside the corral shed.
dragging the long buggy whip behind him. He crept, anger in check, biding his time, making sure his chance to lice one, or maybe more, the culprits who were stealing his prize fruit. They would get away faster, so surprise and the whip would have to cut the difference between their youthful speed and his feeble jaw. Jake pulled his rifle and hat tight, was ringing for him. He kicked off his high-heeled boots and tiptoed the last 2 yards to the clearing. Seconds, Newt was outdistancing Binti, and glancing back, he and Earl saw the whip lash mark of Savage's waist.
Émission Panthère Rouge. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez envie à pantherrouge93.3@gmail.com. Et puis, on passe à notre chronique Femmes super-héros, pour que notre imaginaire ne réduise pas les femmes à des sous-hommes fragiles et sans idées politiques, nous aimons vous raconter la vie de femmes qui contredisent cette image inventée. Et aujourd'hui, de qui parle-t-on, Claire ?
Alors, on va parler de Alexandra Kollontai, qui est une figure historique russe, une marxiste orthodoxe, née dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, pour vous parler de sa vie, je me suis aidée d'un texte qu'elle a écrit, donc une autobiographie, que j'ai trouvé dans un recueil de textes d'elle. Et donc voilà, donc née en 1872, alors pour donner un repère historique, c'est 2 ans après la naissance de Lénine, je sais pas, pour vous donner un repère de révolutionnaire autour d'elle. Donc elle a grandi entre la Finlande et Petrograd dans une famille de la noblesse terrienne.
Et c'est parce que en fait à ce moment-là, la Finlande ça appartenait à la Russie,
oui,
à l'Empire,
la Russie, voilà.
À l'Empire russe.
Mais c'était, elle les différencie quand même, mais bon, ça appartenait à l'Empire russe. Et c'était une femme très intelligente, alors elle a étudié l'histoire, et ses professeurs essayent de la pousser vers le journalisme. Alors elle se marie très jeune, parce qu'elle voulait échapper à sa famille un peu, parce que c'était quand même une société très patriarcale, et sa famille était... très présente, et pour s'échapper, elle s'est mariée. Et par contre, elle a divorcé 3 ans après, parce qu'en fait, ça ne lui plaisait pas trop. Et après son divorce, elle commence à s'intéresser à la politique. Donc elle va passer le printemps de 1896 dans une tisserie à Narva qui comprenait 12 000 employés. Et en fait, la vue de ses employés, cet asservissement, ça va la toucher.
La révolter.
La révolter, en fait. Elle va commencer à avoir des idées. Pour le moment, elle se dit populiste, en fait. Elle est encore loin du marxisme ou des choses comme ça. Et en fait, en 1896, c'est aussi l'année où il va y avoir des grandes grèves de tisseurs, justement, à Petrograd, avec 36 000 ouvriers dans la rue. Et donc là, elle va commencer à militer, elle va organiser des collectes pour les grévistes. Et bon, j'aime bien raconter ça parce que j'aime bien les moments où il y a le déclic dans la tête des gens, où c'est plus possible, il faut changer. Et à partir de ce moment-là, elle va se dire, bon, bah, je vais étudier l'économie et puis je vais étudier Marx.
Donc c'est vraiment le mouvement, en fait, le flot autour d'elle, les grévistes qui vont la pousser à penser autrement. Quoi.
Ouais. Et en fait, elle dit... c'est aussi, y a quelque chose qui l'impressionne beaucoup, c'est cette conscientisation en fait de la masse, c'est-à-dire
il y a un moment où on prend conscience des choses, quoi.
Que la masse, donc des ouvriers, des travailleurs qui sont pas forcément instruits, prennent conscience de leur pouvoir et c'est cette conscientisation, enfin cette chose qui la touche en fait, qui où elle voit qu'elle a la sensation que tout est possible, qu'on peut changer le monde, quoi, qu'on n'est pas obligé d'être asservi comme ça. Mais bon, à ce moment-là, elles ne se sont pas préparées politiquement pour vraiment rentrer dans la politique. Et elle va prendre des cours d'économie. Et d'ailleurs, elle va partir en Allemagne, à Zurich, pour étudier l'économie. Et là, elle a un professeur qui partait du marxisme et qui... aller de plus en plus vers le réformisme. Et en fait, elle n'était pas d'accord avec lui. Elle devenait au contraire de plus en plus marxiste orthodoxe, c'est-à-dire non, mais c'est le réformisme, c'est pas ça. Enfin, moi, je comprends pas du tout. Enfin, vous avez tort. Et donc, il lui dit, bon, écoute, va en Angleterre, tu vas voir les mouvements ouvriers, les trades unions, enfin, les syndicats, tout ça, le réformisme,
l'avenir.
Ça va te changer la vision des choses. Donc, elle y va. Et en fait, les gens qui lui avaient dit de rencontrer, elle les trouve nuls, ils ne les intéressent pas du tout. Et elle va voir les ouvriers. Et en fait, elle est encore plus convaincue de son idée, quoi, que ça passe pas par le réformisme. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle va lire du Rosa Luxembourg, qui a écrit un livre qui s'appelle « Réforme et révolution », qui justement condamne le réformisme. Et donc, pour parler d'une autre femme super-héros, j'en profite. Et voilà, et elle va beaucoup aimer ce que Rosa Luxembourg écrit et voilà. Donc après, à la place de rentrer en Suisse, continuer ses études d'économie, elle va rentrer en Russie. Et elle se sent prête. Donc elle va rentrer en contact avec différentes organisations marxistes.
Et là, c'est quelle époque ? C'est avant la révolution ? C'est 1905, 1917 ou...
Là, c'est 1900 plutôt. C'est, okay. C'est avant 1905, les premières grosses révoltes en 1905. Ouais. Donc... voilà, et elle rentre en Russie, et là, c'est un peu la même chose. Il commence à y avoir cette différence entre les marxistes plus à gauche.
Bolcheviques et mencheviques.
Voilà, enfin là, on ne parle pas encore de bolcheviques, mencheviques, ça va se faire, enfin, 1903, oui, donc un ou deux ans après, quoi, qu'elle rentre. Et donc là, elle va commencer à écrire des articles contre le réformisme. Donc, en fait, l'économiste de l'époque réformiste connu, c'était Edward Bernstein. Et elle va écrire des articles contre lui, contre le réformisme. Et puis, elle va repartir à l'étranger. Elle va rencontrer Rosa Luxembourg, Paul Lafargue. Et elle va commencer à écrire des articles dans des revues étrangères. Et... voilà. Après, en 1905, il y a eu des premières grosses grèves, enfin des journées où il y a eu un, enfin ça a été très très sanglant. C'est, enfin on parle donc c'est le 9 janvier 1905, on parle du dimanche sanglant où l'État a vraiment fait une répression affreuse sur les gens. Et ça aussi, elle était dans la rue à ce moment-là. Elle était avec les manifestants et ça l'a beaucoup
marqué.
Beaucoup marqué. Et donc, après ces journées-là, les bolcheviks ont été encore plus en colère. Mmh. Ils ont commencé à écrire leur propre revue dont elle a participé. En fait, elle a... non seulement elle a écrit des articles, mais elle s'occupait aussi des problèmes d'imprimerie ou des trucs comme ça. Et voilà. Donc après, elle était avec les bolcheviks. Ensuite, elle est repartie avec les mensheviks parce qu'il y avait quelques personnes qui l'impressionnaient beaucoup. Et après, en plus, elle a dû quitter la Russie pendant plusieurs années. Donc de 1908 à 1917, elle a vécu dans l'immigration politique. Elle est allée en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Danemark, en Norvège.
Mais pourquoi ? Parce que le régime
parce que elle était
la mettait en danger ?
Ouais, non, parce qu'elle était accusée de... je ne sais plus exactement quoi, mais c'était une agitatrice parce que elle était contre le régime et donc elle était condamnée. Donc elle s'est cassée pendant toutes ces années, notamment aux États-Unis. Elle est loin, elle s'est bien baladée. Et en 1917, elle est revenue. Donc à partir de 1915, elle est à nouveau avec les bolcheviks. Elle se définit à nouveau avec les bolcheviks.
Et donc, elle a participé à la révolution.
Elle a participé à la révolution russe et elle a eu des postes très importants. Elle a été partie du comité central de Petrograd. C'était une des femmes les plus importantes, en fait. C'est la figure femme de la révolution russe, en fait. Et voilà. Donc là, c'est... ça arrête son autobiographie. Enfin, elle parle aussi... Ensuite, elle a travaillé pour le RSS, notamment à Mexico et en Norvège. Et elle n'en dit pas plus, en fait, parce que... Alors, ce qui est très étonnant chez cette femme, c'est qu'elle n'a pas été tuée par Staline.
Oui, et, comment a-t-elle fait ?
C'est un peu étrange. Alors qu'en plus, dans les années 19, elle faisait partie de... comment ça s'appelle l'opposition ouvrière. C'était ce qu'il y avait de plus à gauche chez les bolcheviks. Ils disaient non, mais l'État c'est bien, mais c'est aux ouvriers de diriger. Ils n'étaient pas contre le pouvoir de l'État, mais ils disaient que les moyens de production, ça devait être dirigé par les ouvriers et pas par une caste de spécialistes.
De bureaucratie,
voilà. Elle était contre la bureaucratie.
Ouvertement.
Ouais. Et pourtant, Staline ne l'a pas assassinée. Alors peut-être que c'est parce qu'elle était à l'étranger aussi, vu qu'elle a travaillé à Mexico, des choses comme ça. Peut-être que c'était parce que c'était une vieille femme, parce que en fait, elle commençait à avoir de l'âge, hein, en 24, je sais plus, enfin en 40, je sais pas. Peut-être parce que aussi
la minute rumeur.
Peut-être aussi parce qu'elle était très très belle. C'était une très très belle femme, faut le dire. Hein. Elle a beaucoup écrit. Alors elle a beaucoup fait scandale parce qu'elle a beaucoup écrit sur la moralité, sur l'amour. Sur l'amour libre, il y a énormément de textes là-dessus, même sur le sexe, en fait, où elle disait que la prostitution dénature le sexe, en fait, comme les hommes se satisfont assez d'une manière bestiale sur des prostituées, ils peuvent pas vivre le sexe comme faudrait le vivre, ils le vivent pas avec de l'amour, ils le vivent comme quelque chose... un peu dégueu, quoi. Et elle a écrit là-dessus. Et moi, c'était... Et alors aussi, elle admet que parfois, ses opinions politiques ont été influencées par ses histoires d'amour aussi. Elle l'admet parce que... C'était une belle femme qui aimait, qu'on aimait et qui aimait, quoi. D'accord. Donc voilà.
Donc c'était la vie d'Alexandra Kollontai. Par Claire.
Merci Claire.
Shh. Şumekerite barısan Tarafta inan bu kuvina club style Of of
Toujours sur Radio Campus avec l'émission Pantarouge jusqu'à 18h, que l'on retrouve également 19h. Ah oui, on a commencé à 18h, c'est jusqu'à 19h. Que l'on retrouve également sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/pantarouge. On continue avec notre rubrique culture et révolution. Alors Lise, aujourd'hui tu nous parles de deux choses.
Alors rapidement, je voulais vous donner un bon plan culture, c'est le documentaire 36,9 degrés, H1N1, pourquoi c'est tombé sur les Mexicains. C'est un documentaire qui a été réalisé par la chaîne suisse TSR, et surtout qui est en fait qu'on peut revoir sur YouTube et qui revient sur le virus de la grippe H1N1. En fait, on en a parlé ici pendant Pantarouge. Ils reprennent un peu les mêmes arguments. Il y en a d'autres en fait sur l'explication de pourquoi on a cru que ça allait être une pandémie qui va tuer tout le monde. Et en fait, ça n'a pas été le cas.
Que ça pourrait être le cas.
Oui, en fait, il y a ça parce que c'est les conditions sont là pour qu'il y ait des mutations et tout. Mais en fait, ils expliquent aussi que au Mexique, là, il y a tellement de pollution que, tout le monde souffrait de maladies respiratoires, mais Parce qu'il y a de la pollution, et en fait, il y en avait une certaine part d'entre eux qui avaient la grippe, mais pas tous, en fait. Oh, bon, il y a d'autres arguments comme ça. Et donc, on mettra le lien sur notre blog.
Donc, c'est sur YouTube, et c'est H1N1.
Pourquoi c'est tombé sur les Mexicains ?
Pourquoi c'est tombé sur les Mexicains ?
Alors, mon deuxième bon plan, c'est un groupe de rap. C'est le groupe de rap qui s'appelle MAP, comme Ministère des Affaires Populaires. Et oui, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui invente de nouveaux ministères. Donc ça rassemble deux chanteurs, un violoniste, un accordéoniste et un DJ. Ils sont lillois et bronzés, donc le nom de leur deuxième album c'est Les Bronzés font du ch'ti. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Ils existent depuis 2006 au moins, puisque c'est la date de leur premier album. Et puis voilà, ils ont des super textes. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils incarnent vraiment des aspirations d'émancipation actuelles, de révolte. En fait, voilà, ce que j'aime, c'est que c'est pas des gens qui disent il faut être rebelle parce que ça se vend bien. Ils sont vraiment des militants qui participent à des combats, à des grèves. En fait, ils font du rap parce qu'ils ont des choses à dire, quoi. Et ils sont vraiment, ils se disent que la situation va pas et que maintenant ça suffit, faut y aller, et faut se bouger, faut manifester, Et donc voilà, leurs chansons, on sent ça, quoi. On sent qu'il y a une réflexion politique, une vraie, quoi. Voilà. Et donc en fait, je les connaissais un petit peu parce que c'était la musique que j'ai. Enfin bref, j'avais une copine qui aimait bien, quoi. Et puis en fait, là, je les ai vus parce que j'ai regardé un peu ce qu'avaient fait des militants. Qui était en faveur de la Palestine contre l'occupation et toute la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine. Donc j'ai suivi un peu ce qu'ils ont fait. Et donc en décembre dernier, il y avait une action qui était une marche pour Gaza. Une marche pour Gaza qui devait partir du Caire où il y avait des militants, en fait 400 manifestants qui venaient de 43 pays différents.
Qui venaient du Caire et qui essayaient d'entrer en Palestine.
Voilà, qui se sont retrouvés au Caire. Et qui devait partir en Palestine faire une marche symbolique avec un tas d'actions, un match de foot. Enfin, ils avaient plein de choses à faire, quoi. Et au final, en fait, le gouvernement égyptien les a pas laissés partir mais les a pas laissés tranquilles non plus. En fait, ils étaient entourés de CRS égyptiens dans une petite bande sur le trottoir qu'ils ont appelée la bande de Giza parce que c'était le nom du boulevard. Et donc, ils ont réinventé un Gaza miniature au Caire. Ils sont restés là pendant 3 jours. Ils avaient les tentes et tout sur un tout petit bout de trottoir entouré de CRS. Mais on les voyait quand même ils ont fait des actions quand même en Égypte, quoi. Ils ont pas perdu leur temps. Et donc, il y avait ce groupe-là, le MAP, qui était là. Et donc, sur les vidéos, on les voit chanter. Et donc, ce qui était trop joli, c'est que donc, dans une des vidéos, on le voit chanter sur la Palestine. Et puis, il y a
les militaires
qui tapent dans les mains, quoi, qui reprennent les chansons, qui tapent dans les mains. Et bon, en fait, c'est idiot de ma part parce que un militaire, c'est un homme comme un autre. Et c'est sûr qu'il peut être sensible à ces questions, il peut être sensible à la musique, il peut taper dans ses mains. Mais bon, quand même, moi, en fait, c'est mon rêve que je lance des slogans et que les CRS en face de moi, ils disent oui, c'est vrai, qu'ils les prennent, qu'ils tapent dans leurs mains, qu'ils disent mais oui, t'as trop raison, et qu'ils se retournent. Quoi, voilà. Donc voilà, je vous invite à suivre le MAP. Le ministère des Affaires Populaires, et on va essayer d'écouter un extrait, et l'extrait, c'est un extrait qui est sur Internet. Alors, est-ce que ça va marcher ?
Résistance ! تعرف فلسطين ما تستسلم احكي لك عندك اليوم اللي دايما نحلم به احكي لك عندك اليوم اللي دايما نستنى فيه روم كلمين شايوم كفحنا طول العمر هاد اليوم جديد راح يجي عن قريب هذا مطلوب مهما يقولوا هذا مطلوب مهما يفكروا هذا مطلوب سوف نعود وداع يا فلسطين في البحر والمياه والاعلام اللي ضايع شايف هذا الشعب يلبي على الوطن شفت على البحر المياه العلام اللي ضايع تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف Tara, follow.
ma tête de cire. Adieu, mon
fils. Vous êtes sur Radio Campus, l'émission Pantarouge touche à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette émission ? Alors d'abord, nous avons rendu hommage à Daniel Ben Saïd.
Ensuite, on a parlé d'Iran, et donc le mouvement populaire iranien continue, il a vraiment un aspect révolutionnaire, et il faut se tenir au courant, même si ce n'est pas facile.
Enfin, Alexandra Kollontai n'a pas de couilles, mais un appareil génital du tonnerre. Elle a su développer ses théories féministes et révolutionnaires et s'imposer politiquement dans un cadre hyper masculin. Alors si elle l'a fait, pourquoi pas nous, hein les copines ?
Bah oui, pourquoi pas. Alors cette émission a été réalisée par Claire, Lise et Antoine aux manettes.
On a entrecoupé nos propos par quelques musiques de la médiathèque, choisies par nos soins notamment.
En fait, la médiathèque, ça passe pas toujours. Il y avait Giovanni Mitabas, c'était le chant des partisans, donc version jazz au piano.
On a pris aussi un morceau de l'album Electric Gypsyland.
Et enfin, un morceau de Troublemaker.
Et aussi, du coup, on a écouté une vidéo MAP.
Voilà, ministère des Affaires Populaires.
Donc vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog audioblog.arteradio.com/panthère-rouge.
Et nous écrire, en particulier si vous voulez être informé de nos prochaines émissions. Alors notre adresse, c'est panthère-rouge, tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
On se retrouve le 31 janvier, dans 2 semaines. Et d'ici là, comme dit l'ami Colin,
surtout ne lâchez rien. Thank you.